À toutes et tous, je suis très content d'être de retour parmi vous après quelques semaines de voyage en famille à travers la France pour les vacances. C'est vraiment une joie de revoir ces visages connus pour la plupart, certains inconnus. Et j'aimerais commencer ce temps de méditation sur la parole de Dieu, ce temps de prédication. En vous posant une question, on va afficher derrière moi plusieurs photos. Donc ça, c'était pendant les vacances. Hein. J'avais rasé la barbe, vous avez vu. Non, c'était avant que je rencontre Sylviane, en fait. Ah, vous reconnaissez tous Camille Lacour, bien sûr. Alors, quel est le point commun entre toutes ces images ? Elles sont en couleur, ouais. C'est un rapport avec la Bible. Ah, c'est une colle, hein. Ouais, un peu plus fort, il y a une bonne réponse devant, là. Des images que l'apôtre Paul utilise, que ce soit dans ses lettres, mais aussi dans le livre des Actes, pour parler de l'Église. Paul parle de l'Église comme un champ, comme un troupeau, comme un corps humain, comme une famille, comme un bâtiment, comme un olivier. Il y a encore quelques autres images qu'il utilise. Et utiliser des images, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant parce que c'est plus proche de nous. Tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on connaît, qu'on voit parfois tous les jours. Et utiliser des images pour parler de réalité spirituelles, de réalités qui peuvent parfois être abstraites, c'est quelque chose qui nous parle, qui nous aide à saisir certaines vérités. L'apôtre Paul a utilisé ces images et ne s'est pas privé d'en utiliser pour parler de l'Église. On sait que notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé aussi des images à plusieurs reprises sous forme de paraboles. Un homme avait deux fils. Le royaume des cieux est semblable à un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Toutes ces histoires, toutes ces images sont parlantes, nous aident à toucher du doigt certaines réalités qui peuvent parfois paraître un peu abstraites. Et il y a des auteurs chrétiens qui ont continué à utiliser cette méthode-là pour parler des réalités de l'Évangile. Je pense tout particulièrement à un auteur que beaucoup connaissent, qui s'appelle C.S. Lewis, Clive Lewis, qui a écrit « Le monde de Narnia ». Et Le Monde de Narnia, c'est un roman qui est grand public, il y a même eu des films grand public qui ont été faits, mais je veux dire, quand on regarde de près, et l'intention tout à fait avouée de C.S. Lewis, c'était de, à travers ces romans-là, de mettre en avant l'histoire de l'Évangile et les valeurs portées par l'Évangile. Alors on pourrait se dire que des images sur l'Église se suffisent à elles-mêmes, il n'y a pas besoin d'explication, mais on va quand même lire ensemble ce matin un texte sur l'Église, et on va méditer un texte de l'apôtre Paul où il utilise une de ces images. On est au début d'une nouvelle année scolaire et universitaire, d'une nouvelle année pour notre vie d'Église également. Les rangs sont encore un petit peu clairsemés, ça va sans doute s'étoffer dans les prochains dimanches. C'est vrai que les mois de juillet et août, particulièrement ici à l'église de Vendôme, c'est souvent des mois très creux. Et donc là, on est au début d'une nouvelle année. Le culte de rentrée aura lieu le 22 septembre. Et je pense qu'il est bon en cette période-là de se rappeler quelques vérités importantes que Dieu enseigne à travers l'apôtre Paul sur ce qu'est l'Église et sur notre position en tant que chrétien par rapport à l'Église. L'Église avec un grand E, l'Église universelle qui rassemble tous les croyants du monde entier, quelles que soient leurs origines ethniques, quel que soit le nom de leur Église, évangélique, baptiste, catholique, orthodoxe, protestante, pentecôtiste, ça c'est l'Église avec un grand E, mais c'est aussi l'Église avec un petit E, l'Église évangélique de Vendôme. Paul s'adresse ici à l'Église de Corinthe, et les vérités qu'il donne, les enseignements qu'il apporte, sont valables pour nous aussi en tant qu'Église. Je vous propose de lire ensemble quelques versets dans la première lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de l'église de Corinthe. Au chapitre 12, nous allons lire les versets 12 à 27 dans la version Semeur qui va s'afficher aussi derrière moi si vous n'avez pas votre téléphone portable ou votre Bible. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant ? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers. Avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Pardon. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Alors les collégiens sont parmi nous, je vois Mona, je vois une rangée là derrière, là, hop. Enfin, il y en a certains qui passent au lycée cette année, mais donc vous n'êtes plus vraiment des collégiens, mais on va faire quelques révisions avant la rentrée. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel pays se situe la ville de Corinthe ? Il y en a un peu en haut aussi, non, les collégiens ? Où ça ? En Grèce, exactement. En Grèce. Alors à l'époque, c'était dans l'Empire romain, donc c'était sous la domination de Rome. Et Paul connaît très bien l'église de Corinthe, puisque c'est lui qui l'a fondée. Il est venu à Corinthe vers l'an 50 à peu près de notre ère. Et il est habité pendant un an et demi à Corinthe. Il s'est installé, il est arrivé seul au départ, il s'est installé et il a exercé son métier. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le métier de l'apôtre Paul ? Qu'est-ce qu'il a appris à faire comme apprenti ? Il fabriquait des tentes, il était un faiseur de tentes. Je pense que s'il y avait eu les flambeaux clair-flammes à l'époque, on aurait sans doute été des clients de Paul, on se serait bien entendu avec lui, on lui aurait acheté des tentes pour faire des camps, des week-ends. Mais bon. Je ne sais pas s'il y avait les scouts déjà à l'époque, mais ouais, il a sans doute loué une échoppe sur le grand marché de la ville de Corinthe. Il s'est associé avec deux personnes, Priscille et Aquilas, qui étaient mariés, et il a fabriqué des tentes. Et il vendait des tentes. Et il le samedi, il allait à la synagogue pour annoncer l'Évangile. Donc Paul connaissait très bien la ville de Corinthe. Et dans la ville de Corinthe, il y avait plusieurs temples pour les dieux grecs et romains. Il y avait notamment un temple qui était dédié aux dieux grecs et romains de la santé. Donc là aussi, je me tourne vers les collégiens, lycéens, ceux qui font latin, grec, tout ça. Pouvez-vous me donner le nom dans la mythologie romaine ou grecque du nom du dieu qui s'occupe de la santé? Ça chuchote. Vous avez droit à plusieurs réponses. Hein. Allez, Amélie. Wow, bravo, bravo, exactement. Asclépios ou Esculape dans la version romaine. Et donc le fonctionnement de ce temple, c'était que les personnes qui étaient malades, qui avaient une pathologie, venaient au temple pour faire une offrande, pour obtenir la guérison. Et ils amenaient très souvent, en plus de leur offrande, ce qu'on appelle un ex voto, c'était une sorte de sculpture en poterie, en argile, de la partie de leur corps qui était malade. Et aujourd'hui, on peut voir ces vestiges, ces ex voto au musée archéologique de Corinthe. On y était l'année dernière avec mon épouse Sylviane, on a visité les vestiges de Corinthe, et c'est assez saisissant. Donc on va afficher quelques photos. Donc voilà ce que les gens amenaient. Quand on avait mal à la jambe, on pouvait acheter une jambe en plâtre, et puis on allait amener la jambe. On voit voilà, des oreilles, par exemple, des yeux, des mains, des bras, des torses. Voilà. Donc, c'est assez étonnant d'être face à cette vitrine avec tous ces corps, ces membres qui sont séparés les uns des autres, qui sont juxtaposés. Et les spécialistes du Nouveau Testament pensent que Paul a été marqué aussi par cette vision, puisqu'il a vécu un an et demi dans cette ville. Alors lui, il n'a certainement jamais fait de sacrifice dans le temple d'Esculape, mais il était au courant des pratiques des habitants de Corinthe, et qui étaient aussi des pratiques partagées dans tout le reste de l'Empire romain. Et les spécialistes pensent que cette pratique-là, de ramener des parties de corps au temple pour obtenir la guérison, a été un élément qui a influencé Paul aussi dans l'utilisation de cette image qu'on trouve dans la lettre aux Corinthiens. Et on va voir trois affirmations importantes que Paul fait à propos de l'Église et du corps, en s'inspirant de l'image du corps. On va relire les versets 14 à 17 qu'on va afficher. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? C'est assez étonnant. Ici, Paul fait parler un pied et il fait parler une oreille. C'est étrange. Et que dit le pied, que dit l'oreille? Ils disent qu'ils n'ont pas leur place dans le corps. Et pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas leur place dans le corps? Parce qu'ils se comparent à d'autres membres, à d'autres organes. Ils pensent que, en se comparant à la main, en se comparant à l'œil, ils n'ont pas leur place dans ce corps, dans cet ensemble. Le pied ne se trouve pas assez bien, assez digne quand il se compare à la main. Et pourtant, Paul dit bien que le pied fait partie du corps malgré tout. C'est un constat, quelque chose qu'on ne peut pas contester. Et si on applique cette image étonnante d'un membre du corps qui parle à l'Église, on a un rappel puissant que chaque chrétien, chaque disciple de Christ fait partie de l'Église. C'est un fait, un constat, quelque chose qu'on ne peut pas contester. Tout chrétien fait partie de l'Église, même s'il se sent indigne, même s'il ne se sent pas à la hauteur, même s'il ne se sent pas comme il faudrait être pour être un bon chrétien. Juste avant le passage qu'on a lu, au début du chapitre 12, et puis la conclusion du chapitre 12, Paul parle des dons que Dieu fait à l'Église, des dons de grâce que Dieu fait à l'Église. Le don de prophétie, le don d'enseignement, le don de guérison, le don de direction, le don d'aide. Et on peut parfois avoir l'impression que pour vraiment faire partie de l'Église, il faut forcément avoir un don particulier. Il faut ne pas avoir peur de parler en public, faut savoir prier à voix haute. Il ne faut pas être accablé par un péché particulier, par une tentation particulière. Et quand cette impression, elle se renforce quand on se compare aux autres. Se comparer, c'est souvent s'enfoncer. C'est souvent se dénigrer soi-même. Et il y a tellement de manières de se comparer aux autres, y compris dans l'Église. L'origine sociale, moi je suis trop pauvre, j'ai pas assez de revenus moi pour vraiment me sentir à l'aise. L'âge, j'ai 13 ans, 12 ans, je suis trop jeune pour vraiment me considérer comme faisant partie de l'Église. Le caractère, je suis vraiment trop timide pour avoir ma place dans l'Église. Les compétences, moi je sais rien faire, je suis complètement inutile, je ne sers à rien dans l'Église. Mes amis, sachez que rien, absolument rien de tout cela n'est un obstacle. Si vous êtes disciple de Jésus, vous faites partie de son Église. On entre dans l'Église parce que Dieu nous adopte comme ses enfants et on ne rentre pas dans l'Église parce qu'on a le bon profil ou le bon CV. C'est valable pour l'Église avec un grand E et c'est valable aussi pour l'Église évangélique de Vendeuvre, pour notre Église. Tu as ta place dans l'Église de Christ et tu as ta place ici, dans l'Église de Vendeuvre. Tel que tu es, quel que soit ton arrière-plan culturel, social, quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quelle que soit la difficulté, le péché avec lequel tu te débats, quel que soit ton parcours de foi, d'Église, quel que soit ton caractère, tu es un cadeau de Dieu pour l'Église, tel que tu es. Dans l'Église de Christ, la règle, c'est la diversité. Et cette diversité est une bénédiction. Cette diversité, elle est même indispensable, comme nous le dit le verset 17. Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Si on se compare aux autres, forcément, on se sent différent. Ce que nous dit ce texte, c'est bien d'être différent. C'est important d'être différent. Parce que si on était tous pareils, alors le corps ne fonctionnerait pas. Ça nous amène à la deuxième affirmation qu'on trouve au verset 18 à 21, qu'on va relire ensemble. Dieu a disposé chaque organe dans le corps avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». On a vu que chacun a sa place dans l'Église, tel qu'il est. Mais ça va encore plus loin. Chacun a besoin des autres. On est là dans ces trois versets, dans la situation inverse de ce qu'on a vu avant. Avant, on voyait que certaines parties du corps pensaient ne pas être à la hauteur pour faire partie du corps. Mais ici, c'est le corps ou certaines parties du corps qui disent « Non mais vous êtes pas... on n'a pas besoin de vous ». Je pense que là, Paul pointe de manière très juste une observation sur le fait que lorsqu'on est différent, lorsqu'on partage une vie d'église avec des personnes qui sont différentes, ces différences-là, elles peuvent parfois déranger, elles peuvent parfois gêner, elles peuvent créer des incompréhensions dans la manière de communiquer, elles peuvent déboucher sur des conflits. Et on peut alors être tenté de privilégier les personnes avec lesquelles on se sent les plus proches. Ceux qui sont un peu comme nous, la même tranche d'âge, la même manière d'exprimer la foi, de vivre la louange, la même opinion sur des questions, on va dire, secondaires, entre guillemets, de la foi chrétienne. Alors je pense qu'il est normal qu'il y ait des affinités dans l'Église, c'est normal qu'il y ait des amitiés particulières qui se créent dans l'Église, et c'est une bonne chose. Mais il faut être vigilant pour que ces affinités ne nous enferment pas. qu'elle laisse toujours une ouverture vers les autres qui sont différents de nous. Dans tout le chapitre 12, à plusieurs reprises, Paul affirme que c'est Dieu qui choisit les membres de son Église, qui place, qui donne les dons comme il le pense bon. Qui sommes-nous, nous, pour dire à Dieu « Non, non, mais tu t'es trompé, là, cette personne-là, moi, je n'ai pas sa place dans l'Église. » C'est Dieu qui est souverain, l'Esprit qui est souverain pour constituer l'Église comme le souhaite notre Dieu. La diversité est indispensable pour que l'Église fonctionne bien, pour que nous marchions sur nos deux jambes, que nous ayons les deux yeux ouverts, les deux oreilles ouvertes. Alors c'est toujours très difficile d'analyser de manière objective une situation dans laquelle on est soi-même impliqué. Et donc à la question de savoir si nous, à l'Église de Vendeuvre, nous vivons cette réalité de la diversité, je risque fort de ne pas être très objectif. Mais bon, je me lance quand même. À titre personnel, moi je loue le Seigneur de ce que l'Église de Vendeuvre présente une diversité importante au sein de ceux qui la composent. Je me souviens quand on est arrivé il y a 11 ans, il y avait assez peu de personnes âgées, et je me réjouis, je loue le Seigneur pour toutes les personnes plus âgées, pour tous les seniors qui sont aujourd'hui présents dans notre Église. Je loue le Seigneur pour tous nos frères et sœurs africains qui nous ont rejoints, pour tous qui sommes ici. Mais je prie aussi notre Dieu pour que chacune et chacun de nous, nous prenions toujours plus conscience du cadeau que Dieu nous fait par l'Église que nous représentons, par la diversité que nous représentons. Je prie pour que chacune et chacun, nous réalisions qu'on a besoin des autres. On a besoin des différences des autres. C'est clairement ce que dit le texte. On a besoin que les autres soient différents. Et je prie pour que Dieu nous aide à toujours plus exercer entre nous le don de l'amour. Après le chapitre 12 de Corinthiens, il y a le chapitre 13, dans lequel Paul parle du don par excellence, qui est le don de l'amour. Frères et sœurs, que nous puissions vivre entre nous ce don de l'amour. Troisième vérité importante que l'on trouve dans ce texte, c'est que la diversité voulue par Dieu dans le corps et dans l'Église, elle s'inscrit dans l'unité. On va relire les versets 12 et 13. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit, pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. L'Esprit Saint a été donné à tous ceux qui sont enfants de Dieu, à tous ceux qui sont disciples de Christ. Et c'est cet esprit qui nous unit à Jésus. Et c'est cet esprit qui, aujourd'hui encore, fait que nous appartenons à l'Église, qui nous unit au sein de l'Église. Dans la lettre qu'il enverra à l'Église de Colosse, Paul reprend cette image du corps et il la modifie un petit peu en disant que cette fois, la tête du corps, c'est Jésus. Là, la première fois qu'il utilise cette image, il parle de la tête comme étant un membre parmi d'autres, mais dans la lettre aux Colossiens, il va dire que c'est le Christ qui est la tête de l'Église, comme la tête dirige le corps. Ici, on voit que Paul met l'accent sur le Saint-Esprit. Mais que ce soit le Christ, que ce soit le Saint-Esprit, nous voyons que c'est Dieu qui crée et qui maintient l'unité dans l'Église, qui rassemble et qui réunit. Et cette unité, elle se traduit concrètement dans la vie de l'Église. On va relire les deux derniers versets de notre texte, les versets 26 et 27. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. « nous sommes solidaires les uns des autres, nous sommes interdépendants, parce que nous sommes unis par l'Esprit Saint, nous sommes unis par le Christ. Nous faisons partie de la même Église, comme les membres font partie d'un même corps, et chaque membre a sa fonction particulière, et nous aussi, nous avons chacun notre fonction, notre part, en fonction de ce que Dieu nous a donné, comme cadeau, comme don spirituel. Il peut parfois y avoir une tension entre cette idée d'unité et la diversité dont on a parlé au tout début, en disant, bah oui, les différences sont importantes, sont nécessaires. Comment vivre pleinement ces différences tout en restant unis? Paul nous dit ici que Dieu, il veut conjuguer les deux, l'unité et la diversité, pour que l'Église puisse pleinement se développer, puisse jouer son rôle d'adorateur, de témoin dans le monde. Alors on est au moins 3 bibliothécaires là dans la salle. Il y a Nadine, Rebecca. Elle est descendue? Elle est là, Rebecca. Donc si on devait mettre des mots-clés sur ce texte, moi je mettrais bien unité et diversité. Et souvent, ces deux termes-là, d'unité et de diversité, on va les afficher. On peut craindre qu'ils évoluent vers des mots qui commencent par les mêmes lettres. Uniformité et division. Paul, dans ce texte, on va afficher les dernières diapositives, nous dit que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est pas aucune tête ne dépasse. On peut vivre l'unité dans la diversité. Mais il nous dit aussi que la diversité, ce n'est pas la division. Ce n'est pas je me regroupe avec ceux qui ont les mêmes avis que moi et on va faire une église à part. Nous, on aime bien louer debout, alors on va faire une église avec ceux qui louent debout. À Rome, c'était la question de la viande sacrifiée aux idoles. Paul ne dit pas, ceux qui mangent la viande sacrifiée aux idoles, allez faire votre église, et puis ceux qui décident de ne pas en manger, non, il leur dit, mettez-vous, vivez avec vos différences. Vous avez une lecture différente des choses. Alors Paul parle des faibles, des forts, c'est Romains 14 et 15. Il leur dit pas, allez faire, séparez-vous. Mais il dit, vivez vos différences dans l'église, dans l'unité que donne le Saint-Esprit. Unité et non uniformité. Diversité et non division. On peut enlever cette dernière diapositive, j'en arrive à la conclusion. La première, les images affichées au départ nous montraient toutes les images que Paul utilise pour parler de l'Église. Il y a quelques mois, ici, Hans-Peter Schneider de l'Église de Pompéi était venu, il avait parlé aussi avec une autre image de l'Église comme un orchestre où chacun joue sa partition avec le chef d'orchestre qui dirige, même le petit triangle qui n'a qu'une note à jouer dans toute l'œuvre a son rôle à jouer. Et ce matin, j'aimerais vous laisser une autre image. Certains le savent peut-être, ma belle-mère, la maman de Sylviane et de Nadine, est une artiste qui réalise de magnifiques œuvres en tissu. Et ce matin, Nadine en a amené une. Alors, je ne sais pas si certains connaissent, ça s'appelle du patchwork. Donc on va prendre plein de morceaux de tissu différents. On va les assembler ensemble avec la colombe, symbole du Saint-Esprit aussi, dans la Bible. Chaque morceau de tissu a sa propre forme, sa propre couleur. Chaque morceau de tissu est différent des autres. Sinon, ça serait quelque chose de très, très uniforme. Et c'est l'artiste qui décide de placer tel tissu à tel endroit. C'est l'artiste qui va choisir la couleur, qui va choisir la forme. Chaque morceau a besoin des autres pour tenir dans l'ensemble, pour jouer son rôle. S'il y a un morceau qui manque, l'œuvre est gâchée. S'il y a un morceau qui est abîmé, l'œuvre est endommagée. Et chaque morceau, chaque bout de tissu de cette œuvre
elle s'inscrit dans quelque chose d'unique, voulu par l'artiste, par la créatrice. C'est l'artiste qui assemble, qui décide et qui poursuit un but, tout comme Dieu nous a réunis dans l'Église avec un grand E, qui se réunit dans le monde entier et dans l'Église ici à Vendeuvre, pour que nous puissions l'adorer, que nous puissions nous édifier mutuellement et que nous puissions être des témoins dans le monde. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous te louons pour ta grâce. Ta grâce de t'être révélé à nous. Ta grâce de nous avoir montré le chemin qui mène à la liberté, qui mène à l'adoption. Merci parce que tu fais de nous tes enfants, co-héritiers du Christ. Seigneur Jésus, tu es le bon berger. Merci parce que tu donnes une famille à ceux qui sont seuls. Merci parce que tu donnes à chacune et à chacun une place dans ta maison. Nous te prions de nous accorder à tous le don de la communauté, dans l'endroit où nous sommes profondément aimés par les autres. Notre Père, aide-nous par ton Saint-Esprit en retour à accueillir généreusement les autres, à les aimer eux avec leurs différences. Ton Fils Jésus, oui, notre Père, ton Fils Jésus nous appelle ses frères et ses sœurs. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes tes enfants. Merci Père, parce que tu es présent avec nous. Amen.